La vigne, Jésus nous donne la définition de ce symbole. La vigne, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Et ce royaume de Dieu, des cieux, sur la terre, c'est pas seulement une institution comme le fut le judaïsme ou l'est encore aujourd'hui, ou l'Église. Non, Jésus a changé, c'est pas seulement ça. Jésus, lui, on le voit, parce qu'il a complètement modifié eh bien, la structure matérielle du judaïsme. Il n'a pas gardé le judaïsme en tant que tel. Il a vraiment créé une autre religion, même si elle est la continuation de la première. Et toutes les structures qui allaient avec le judaïsme eh bien, se sont écroulées en même temps que le temple de Jérusalem. Donc, c'est pas les structures, c'est l'institution. Donc, pour dans l'esprit de Jésus, la vigne, donc ce royaume des cieux sur la terre, ça ne peut pas être réduit à une institution, même pieuse, même bonne. Il faut autre chose. Ce royaume des cieux, c'est ce qui conserve une sorte d'arche d'alliance, en quelque sorte, qui conserve la foi véritable. Une foi qui est véritable parce que la vérité qu'elle recèle vient d'en haut et ne vient pas de la créativité des hommes. Et une foi qui est vivante parce qu'elle est agissante. Elle produit des œuvres, elle nous donne la force d'accomplir les œuvres eh bien, qu'elle met sous nos yeux. Et ça, c'est la véritable foi. Et la foi, c'est un cadeau que nous recevons d'en haut. C'est pourquoi Jésus exige que sa vigne produise des fruits. Parce que si la vigne, si ce royaume des cieux sur la terre ne produit pas de fruits, ben il se réduit à une institution morte, une sorte de tombeau. Il peut être aussi beau qu'on veut, le tombeau, mais tout ce qui est à l'intérieur est mort et ça n'est plus qu'un souvenir. La vigne doit produire des fruits. Et quels sont les fruits que la vigne doit produire ? Après tout, le judaïsme produisait des tas d'activités. Eh bien, c'est le salut des âmes. Cette foi véritable, son fruit précis, c'est le salut. Et pas le salut des corps en tant que tel, puisque Jésus est mort sur une croix, en tenant son corps pour rien, finalement. Non, c'est le salut de l'âme que ce royaume des cieux recèle. C'est le grand cadeau que ce royaume fondé sur la terre nous fait. Alors, on comprend par là que l'Église, sa vocation, c'est le salut. Et tout tourne autour de ça. La vérité elle-même nous est donnée en vue du salut. L'amour est infusé dans nos cœurs en vue du salut. La loi morale nous est communiquée en vue du salut. Le salut, c'est la fin ultime de toute chose. Donc l'Église ne peut pas être réduite à la notion d'accueillir tous les hommes. Et cet accueil étant pris comme une fin en soi. Ce n'est pas l'accueil des hommes, l'Église. L'Église, c'est le salut des âmes. Alors ça passe évidemment par un accueil. Mais l'Église ne sera jamais un lieu qui puisse abriter l'impureté. Vous savez, la parabole là, des noces du fils du roi, le roi vient il invite tout le monde. Il allait sur les places parce que les invités qui avaient été prévus étaient discourtois, ils se sont récusés. Et il en voit un qui n'a pas l'habit de noces, qui ne s'est pas sanctifié, qui n'a pas embrassé la foi et qui est là, qui se promène dans l'église comme s'il était chez lui. Jésus dit « dehors, là où sont les ténèbres, les pleurs et les grincements de dents, parce que sans la foi qui sauve, c'est le destin de l'humanité. » Donc ce royaume des cieux sur la terre, ce n'est pas un plus que Jésus vient donner, un élément de confort pour tenir le coup dans un monde qui est rude. C'est beaucoup plus que cela. Et vraiment, la clé du salut, et nous devons être reconnaissants à Dieu, eh bien, de nous apporter ce cadeau véritable. Ensuite, à la fin, Jésus nous dit que, à travers cette parabole, la conquête de la vigne, les vignerons veulent s'approprier la vigne, la confisquer des mains de Dieu, ça nous dit que le monde passe son temps à méditer la conquête du royaume des cieux pour se l'approprier. Pour s'approprier quoi ? La force dont recèle ce royaume des cieux, pour être un objet d'adoration de la part des hommes, et donc les mettre en état d'obéissance et de servile et de servilité. La vérité, elle est donnée d'en haut. On ne peut pas la conquérir d'en bas, ni la définir à partir du bas. Une vérité, ça dépasse complètement l'ordre politique, l'ordre idéologique. La vérité est fondée sur l'éternité. L'homme ne peut pas produire quoi que ce soit qui soit fondé sur l'éternité. Dieu seul peut affronter cette immensité sans fin. L'éternité, c'est la grande vérité de l'au-delà. Le monde, selon le Christ, est toujours l'ennemi de l'Église et de Dieu. Toujours. Parce qu'il entre en compétition avec lui et il voudrait avoir la même réputation, la même grandeur et le même pouvoir que Dieu lui-même. Or, Dieu est humble, comme Jésus nous le montre au cours de sa vie, et même dans sa gloire, il continue d'être si patient. Oui, les vignerons mettent le Fils à mort, et Jésus parle de lui-même à travers cette parabole. Oui, ils le chasseront hors de la vigne. Jésus a été maudit par le judaïsme. Il a été jeté hors de sa déclaré anathème, jeté hors de la frontière religieuse d'Israël. Il a été maudit parce qu'il est dit justement dans un psaume, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Jésus a été pendu au bois de la croix. C'est un signe de malédiction de la part des hommes, pas de la part de Dieu. Un signe de malédiction de la part du monde, pas de la part du Père. Une mauvaise théologie fait de cette malédiction la volonté du Père. Non, c'est seulement le péché que Jésus veut endosser qui l'oblige à passer par cette case de la malédiction. Mais le Père, à aucun moment, ne maudit son Fils parce qu'il est mal vêtu, vêtu du péché de l'humanité. En aucune façon, à aucun moment. La pierre d'angle, c'est Jésus, le juge des vivants et des morts. La pierre d'angle, c'est le fondement de la foi et de la vie. Et Jésus est ce fondement-là. Alors, quant à nous, n'écoutons pas trop la voix du monde, à travers toutes ces voix, toutes ces sources, médiatiques ou autres. N'écoutons pas trop sa logique et ses raisonnements, n'écoutons pas trop ses critiques et ses malédictions, n'écoutons pas trop ses inquiétudes et ses angoisses. Regardons plutôt, fixons la lumière de la vie, fixons Jésus pour garder la paix en ce monde. Vous savez, il y a bien des angoisses qui passent à travers les médias et qui sont de pures illusions. Il faut regarder vraiment le Christ pour savoir ce qui est vrai et faux, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors hier, nous fêtions, c'est une grande fête, Notre-Dame du Rosaire. Nous sommes dans la maison de Marie ici, et il est normal de faire mémoire encore aujourd'hui de cette grande fête. Et tout le mois d'octobre, c'est le mois de Marie, le mois du rosaire précisément. Alors cette fête, c'était en mémoire de deux victoires contre l'Empire ottoman, contre les Turcs, et donc qui a empêché que la charia, une partie de l'Europe en tout cas, ne soit mise sous l'autorité de la charia, parce qu'une fois que c'est fait, c'est comme le marxisme, c'est bien difficile à enlever. Marie intervient dans l'histoire, Mais elle n'intervient pas pour, dans un but géopolitique, pour fonder des royaumes. Elle intervient parce que les croyants, parce que l'enjeu, alors, c'était la foi véritable. Parce qu'une fois que le christianisme est chassé par telle ou telle idéologie, eh bien, il n'y a plus rien derrière, plus rien ne pousse spirituellement parlant. Alors ce rosaire nous apprend, en pratiquant le rosaire, cette prière si simple, eh bien Marie nous donne le sens véritable de la foi. C'est un résumé de l'Évangile, hein, ces 15 mystères qui le composent. Et Marie, eh bien, se fait vraiment maîtresse de vie spirituelle, et catéchiste, me dirais-je. Alors, ce n'est pas forcément au moment de la prière, mais il y a des choses, une force, un éclairage qui nous est donné, et on trouve, les gens trouvent, dans les jours suivants, les semaines suivantes, ce qu'il leur faut, les réponses exactes qui leur manquent. Marie met en place la foi dans la tête et dans le cœur des croyants. Ça, c'est très important. C'est un des grands effets du rosaire. Ensuite, c'est la prière, bien évidemment. Et Marie est vraiment maîtresse de vie spirituelle. Prier, c'est un don du ciel. C'est normal d'être sec dans la prière parce que ça veut dire qu'on est limité à ce moment-là à ses propres forces. Et ce qu'on peut faire activement dans ces cas-là, c'est de nous tenir en présence de Dieu et de persévérer pour demander le don de la prière. Et le don de la prière, c'est la communication avec Dieu. Marie, est un intermédiaire magnifique, parce qu'avec elle, c'est si facile d'entrer en relation. Le rosaire, c'est une façon merveilleuse d'entrer dans la prière avec simplicité et efficacité. Dans toutes ces apparitions, la Vierge Marie, enfin dans beaucoup d'apparitions modernes, Lourdes évidemment, mais également Fatima, la Vierge apparaît et puis elle se met à prier le rosaire justement. Alors le rosaire lui est dédié. Quand on prie le rosaire, c'est elle qu'on prie. Mais à travers elle, c'est Dieu. Et comme à Lourdes, eh bien, elle tourne son regard vers le ciel parce que cette prière qui monte vers elle, elle la redistribue, elle la fait grimper par l'ascenseur de son cœur immaculé jusqu'à son Fils, jusqu'à la Trinité. On voit Marie qui prie avec les voyants, avec les croyants qui sont réunis là. Elle prie avec eux et en même temps, elle leur apprend à prier. Et c'est exactement ce qu'elle fait avec chacun d'entre nous. Et c'est très beau de voir cette sollicitude maternelle, cette douceur, cette tendresse, cette miséricorde. Marie est aussi consolatrice des affligés. Et il y a de quoi être consolé en ce monde parce que les épreuves sont nombreuses. Elle communique le don de force. C'est ça la consolation d'abord et avant tout. C'est pas annuler l'épreuve. Mais c'est être capable, comme elle, de nous tenir debout au pied de la croix. Et elle nous communique aussi le don de l'espérance. Croire, adhérer à la victoire, alors que rien encore ne nous permet de la voir émerger. Et pourtant, eh bien, par l'espérance, nous dépassons le ciel nuageux du moment pour aller au-delà, pour rejoindre l'azur, dans une pleine assurance que nous sommes écoutés et que nous serons délivrés. Marie est prophétesse aussi, celle des derniers temps. Elle l'était durant sa passion. Lorsque Jésus est mort, ben c'est Dieu qui est mort, c'est Dieu qui a quitté la terre. Et Marie était là dans la foi, certaine, eh bien qu'il reviendrait, que la mort n'aurait pas de pouvoir sur lui, ne pourrait pas le retenir ni le détruire. Et elle était la seule, parmi les disciples, parmi tous les croyants de ce temps, elle était la seule à avoir cette foi, la véritable foi, celle qui conduit au salut. Et elle l'a gardée jusqu'au matin de Pâques, afin que les disciples puissent accueillir la nouvelle de la résurrection. C'est par Marie, c'est cette préparation au temps le plus difficile, eh bien, que l'Église naissante a pu accueillir la nouvelle de la résurrection et la comprendre. Marie, donc durant sa passion, elle est prophétesse. Elle est prophétesse aussi, nous dit saint Jean dans l'Apocalypse, en face à Babylone, ce monde complètement structuré par le dragon, par les ténèbres, donc par l'ennemi de Dieu. Eh bien, ce monde qui pousse les âmes vers la terre et non pas vers le ciel, soit dans leurs pensées, soit dans leurs désirs, soit dans leurs actions, eh bien, Marie est envoyée au désert. Et là, elle accueille précisément, eh bien, les croyants. Comment rejoindre Marie au désert? Il est où ce désert? Prenez votre chapelet. Vous rejoindrez cette oasis cachée aux yeux du monde, cachée aux yeux du dragon, mais que tous les croyants peuvent trouver. Nous, nous avons la carte en 15 mystères qui nous est tracée. Marie, elle épouse enfin de l'Esprit-Saint. Sa fragilité, eh bien, coexiste avec la force de l'amour. Ce n'est pas parce qu'elle est une créature faible, comme nous tous, eh bien, elle est complètement structurée par son amour de Dieu, par l'amour qui la remplit complètement. Elle est l'épouse de l'Esprit-Saint. Et chez elle, la pureté rime avec la beauté. La pureté, ce n'est pas la chose difficile à accomplir, austère, triste. Chez elle, pureté morale, pureté spirituelle, aucun compromis avec le monde chez Marie. Eh bien, ça rime avec beauté, une beauté prodigieuse qui attire Dieu comme l'aimant attire le fer. Alors, en ce mois, demeurons avec Marie pour faire pénitence, pour être illuminé et pour être uni à Dieu.